Radio Prague, les informations.
Selon le ministre tchèque des Affaires étrangères, l'OTAN doit surveiller les opérations en Libye. Les syndicats attendent la réaction du gouvernement à leurs objections contre la réforme fiscale. Le ministre des Finances envisage de supprimer le tiers des taxes exceptionnelles. L'OTAN devrait se charger de surveiller les opérations militaires en Libye. Cela signifierait aussi un engagement indirect de la Tchéquie, qui est membre de l'OTAN dans ses opérations. Une déclaration faite par le ministre tchèque des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg à l'issue d'une réunion de ses homologues des pays de l'Union européenne à Bruxelles. Les syndicats tchèques attendent maintenant la réaction du gouvernement à leurs objections contre le projet de la réforme fiscale. Ce n'est qu'après avoir connu cette réaction que les syndicats procéderont éventuellement à une action plus radicale, c'est ce qu'ont déclaré ce lundi les leaders de la Confédération des unions syndicales tchéco-moraves, la plus grande centrale syndicale du pays, et de l'Association des syndicats indépendants. Le premier ministre tchèque Petr Nečas a admis indirectement que les changements démographiques en République tchèque seraient moins profonds que ne prévoyait le gouvernement en préparant la réforme du système des retraites. Selon le premier ministre, il est cependant bien de se préparer au scénario plus pessimiste de l'évolution démographique dans le pays. C'est plus responsable vis-à-vis des citoyens, a-t-il déclaré. Le gouvernement prépare une réforme des retraites qu'il présente comme nécessaire pour éviter les conséquences du vieillissement de la population. Pour financer la réforme, il envisage d'augmenter la TVA. Le ministre tchèque des Finances, Miroslav Kalousek, envisage de supprimer à peu près le tiers des taxes exceptionnelles. Actuellement, il y a dans le système fiscal tchèque 118 impôts exceptionnels. Cette mesure doit apporter au budget près de 15 milliards de couronnes, quelque 600 millions d'euros. En 2010, l'espérance de vie féminine en République tchèque était exactement de 80,6 ans et de 74,4 ans pour les hommes, un chiffre en augmentation de 6 mois pour les femmes et de quelques semaines chez les hommes selon les données du Bureau tchèque des statistiques qui ont été publiées. Plusieurs organisations humanitaires de République tchèque cherchent à aider le Japon ravagé par le récent séisme. L'organisation humanitaire ADRA, République tchèque, a réuni dans une collecte publique lancée à cette occasion 6 millions de couronnes, quelque 240 000 euros. Ces moyens seront envoyés à la filiale japonaise de l'organisation ADRA, qui les utilisera pour organiser une aide humanitaire. Selon l'attachée de presse Teresa Svobodova, les membres de cette organisation au Japon s'occupent notamment des personnes évacuées et les approvisionne d'eau, d'aliments et de produits hygiéniques. Météo. Ce lundi, fête de tous les radex selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est clair à variable et les températures se situent entre 7 et 11 degrés pour les maximales. Mardi, le ciel en Tchéquie sera toujours clair à variable et les températures diurnes s'échelonneront de 11 à 15 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter et nous cédons le micro à Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Bienvenue sur Radio Prague et merci à Václav Richter pour le bulletin d'information. À la une de l'actualité mondiale et tchèque, l'opération militaire en Libye. Vous écouterez le commentaire de Petr Drulák, directeur de l'Institut pragois des relations internationales. Nous vous présenterons ensuite le nouveau président du Parti social-démocrate, Bohuslav Sobotka, élu lors du congrès du parti vendredi dernier. L'opération militaire en Libye a commencé samedi soir et les bombardements continuent en ce début de semaine. Le gouvernement tchèque a annoncé qu'il ne participerait pas directement à cette opération appelée Aube de l'Odyssée, mais il a indiqué qu'il soutiendrait l'engagement de l'OTAN dans cette intervention. Pour en parler sur notre antenne, Petr Drulák, directeur de l'Institut des relations internationales de Prague, et il a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Bonjour Petr Drulák, vous dirigez l'Institut des relations internationales à Prague. Comment est-ce que vous analysez la position du gouvernement tchèque en ce qui concerne l'opération militaire lancée samedi en Libye?
Bonjour, le gouvernement tchèque soutient cette opération bien que Le gouvernement a dit clairement qu'il ne peut pas contribuer à cette intervention parce qu'il n'a pas de navires ou des avions qui sont nécessaires pour ce genre de combat.
Le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, a déclaré dimanche à la télévision publique qu'il soutiendrait une intervention de l'OTAN, un engagement de l'OTAN dans l'opération, mais cela semble compliqué avec notamment des réticences de la Turquie.
Oui, c'est vrai, mais quand même, cette opération a déjà une légitimité qui provient du Conseil de la sécurité de l'ONU, ce qui est décisif. Donc le soutien politique est déjà ici.
Depuis le début des négociations concernant cette opération, on peut noter un manque de coordination au niveau européen avec des pays de l'Union comme la France et la Grande-Bretagne qui sont évidemment représentés au Conseil de sécurité de l'ONU qui font en quelque sorte cavalier seul, sans consultation préalable avec les partenaires européens. Et le Premier ministre tchèque Petr Nečas a d'ailleurs dit que Prague n'avait pas été consulté sur la question. Et puis, avec l'absence sur le front diplomatique du président du Conseil, Herman Van Rompuy, ou de la chef de la diplomatie européenne, la baronne Ashton, alors est-ce que c'est une des constatations de ce qui se passe en ce moment que, une nouvelle fois, l'Union européenne ne parvient pas à adopter une position commune ?
C'est une question difficile parce que c'est vrai que l'Union européenne est divisée à propos de ces questions, mais il n'y a aucun pays qui serait vraiment contre et voudrait boycotter cette action. Donc il y a plusieurs pays qui sont prêts à intervenir et le reste leur donne un feu vert. Mais quand même la question des consultations des affaires militaires et stratégiques est toujours le problème au sein de l'Union européenne. Malheureusement, c'est un habitude que les grands pays s'accordent entre eux et après ils s'attendent que le reste de l'Europe va suivre. Et si on ne change pas ce modèle de comportement, ça ne peut pas faire parvenir une vraie Europe de défense.
C'était le directeur de l'Institut Pragois des Relations Internationales, Petr Drulák. Le Parti social-démocrate CSSD s'est doté d'une nouvelle direction vendredi. Président par intérim de la principale formation de l'opposition depuis la démission de Jiří Paroubek suite aux dernières élections législatives en mai 2010, Bohuslav Sobotka, 39 ans, restera à la tête du parti pendant deux prochaines années. Le duel entre Bohuslav Sobotka et Michal Hašek, préfet de Moravie du Sud, âgé de 34 ans, a été serré. Ce n'est que de 4 voix que Bohuslav Sobotka a devancé son adversaire, finalement élu le lendemain vice-président du parti. À la veille du congrès des socialistes, les médias tchèques avaient parlé d'un duel de deux anti-leaders en faisant allusion à un certain manque de charisme politique chez les deux candidats à la présidence du parti. Ce lundi, les journaux constatent que Bohuslav Sobotka s'est tu pendant 15 ans et curieusement, cette attitude porte ses fruits. Discret, toujours mesuré dans ses propos, jamais impliqué dans une grosse affaire de corruption et loin de l'égocentrisme de l'ancien leader Jiří Paroubek, Bohuslav Sobotka possède l'image d'un jeune homme gentil et crédible, une réputation qui le place très haut dans les sondages de popularité. Diplômé en droit, il s'est lancé immédiatement dans la politique et député depuis 1996. Il a été ministre des Finances de 2002 à 2006, avant de devenir vice-président, puis président par intérim donc de la social-démocratie. Sa priorité en tant que leader de l'opposition est claire, proposer une alternative aux réformes de la coalition gouvernementale et notamment à la hausse prévue de la TVA tant discutée ces dernières semaines, en imposant par exemple une plus grande rigueur fiscale aux entreprises. Bohuslav Sobotka.
Pokud by sociální demokracie vyhrála volby, tak naším cílem bude alespoň některé z těch sociálně citlivých položek. Si nous remportons les élections législatives, notre objectif sera de baisser le taux de TVA de certains produits qui touchent au domaine social et à l'éducation, à savoir les médicaments, les produits alimentaires ainsi que les livres.
A podle mého názoru by to měly být také náklady, které souvisí se vzděláním, čili určitě knihy.
Bohuslav Sobotka prône la lutte contre la corruption ainsi que le concept d'état social réel, selon lui, même dans la situation actuelle de l'économie tchèque. Le nouveau leader de la social-démocratie veut également s'adresser aux électeurs de moins de 25 ans en garantissant par exemple un enseignement de qualité aux jeunes issus des milieux défavorisés. Le succès de Bohuslav Sobotka aurait semé une légère incertitude au sein de la coalition gouvernementale qui, selon la presse, aurait préféré voir à sa place Michal Hašek. On écoute le ministre de la Justice, vice-président du Parti civique démocrate, Jiří Pospíšil.
Podle mého názoru sociální demokracie dále bude levicou populistickou stranou.
Je pense que la social-démocratie restera un parti de gauche et populiste. Je crains que nous ayons du mal à négocier la réforme gouvernementale.
Se budou obtížně zkomunikovávat vládní reformy.
Bohuslav Sobotka, l'homme qui n'exclut rien en politique, comme l'écrit le quotidien Hospodářské noviny en citant l'expression préférée du politicien. Bohuslav Sobotka donc n'est pas l'unique vainqueur du congrès du week-end écoulé. Jiří Dienstbier, le fils de l'ancien chef de la diplomatie, Jiří Dienstbier, est non seulement devenu un des 6 vice-présidents du parti, mais il a aussi remporté le premier tour des élections sénatoriales dans la ville de Kladno et pourrait même remplacer le député socialiste Martin Pecina qui envisage de démissionner. Une autre personnalité donc au sein de la social-démocratie qui fait beaucoup parler d'elle. C'est la fin des faits et événements en République tchèque et comme chaque lundi, nous passons au sport. Après 5 saisons passées sous le maillot de l'équipe italienne Liquigas, Roman Kreuziger a donné une nouvelle impulsion à sa carrière en rejoignant Astana à l'intersaison. 9e des 2 derniers Tours de France, le meilleur coureur tchèque actuel a rejoint la formation kazakh d'Alexandre Vinokourov avec le Tour d'Italie pour principal objectif en 2011, comme il l'a confirmé lors de son passage à Prague la semaine dernière. Guillaume Larquet.
Sport en République tchèque.
Roman Kreuziger a véritablement lancé sa saison 2011 avec Paris-Nice il y a 2 semaines. Une course au cours de laquelle le Tchèque ne s'est pas montré sous son meilleur jour et n'a pas répondu aux premières attentes, tant celles de sa nouvelle équipe que celles du public ou des médias. 17e du classement général à l'arrivée sur la promenade des Anglais à l'issue de la 8e étape, à 7 minutes 10 secondes du vainqueur, l'Allemand Tony Martin, Roman Kreuziger a fait moins bien que la saison dernière. À l'époque, il avait terminé 4e à Nice avec le maillot blanc de meilleur jeune sur les épaules. Des épaules, justement, il en faudra de solides à Kreuziger pour supporter la pression qui pèsera sur lui tout au long de sa première année de contrat chez Astana. Car si Alexander Vinokourov, le capitaine de route de l'équipe kazakh, a fait appel à lui, c'est ni plus ni moins pour remplacer un certain Alberto Contador, le triple vainqueur du Tour, ayant rejoint les rangs de la Saxo Bank. Pour autant, bien qu'un peu déçu par ses performances sur Paris-Nice, Roman Kreuziger affirme ne pas être inquiet.
C'est vrai que j'attendais un peu plus. Heureusement, l'équipe a remporté une victoire d'étape. Le bilan n'est donc pas complètement négatif. De mon côté, j'ai accumulé des kilomètres de course. J'ai maintenant quelques jours de repos avant d'enchaîner avec un nouveau stage de préparation. Et je reste serein car j'ai la confiance de l'équipe. J'ai participé à mes premières courses avec ma nouvelle équipe dans laquelle je me suis bien adapté. Et c'est aussi très important.
Malgré la réputation sulfureuse de sa nouvelle équipe, Roman Kreuziger est pour l'heure particulièrement satisfait d'avoir franchi le pas et d'avoir rejoint Astana.
C'est vrai qu'il ne nous manque rien, tout est fait pour nous mettre dans des conditions optimales. C'était déjà le cas auparavant, mais par rapport à lui, Quigas, je ressens chez Astana une plus grande confiance. Il me laisse tranquille, je suis un professionnel et je sais me préparer seul chez moi. Chez lui, Quigas, nous avions beaucoup de stages, il nous contrôlait même au petit déjeuner. Quand j'arrivais sur une course, j'étais déjà fatigué avant d'en prendre le départ. Chez Astana, j'ai plus de liberté et grâce à ça, j'ai le sentiment d'avoir plus d'énergie. Mais en échange, ils attendent plus de leurs coureurs sur les grandes courses.
À 24 ans, Roman Kreuziger entend bien franchir un palier dans sa progression, vainqueur notamment des Tours de Romandie en 2008, de Suisse en 2009 et de Sardaigne en 2010. Le Tchèque souhaite désormais se mêler à la lutte pour le podium également sur un des trois grands tours. Pour cette saison, sa priorité sera donc le Tour d'Italie, sans doute au détriment du Tour de France, mais pour atteindre ses objectifs et éventuellement endosser le maillot rose de leader, Roman Kreuziger aura probablement fort à faire sur les routes du Giro.
Les objectifs sont élevés et l'attente de l'équipe est grande aussi. Nous sommes convaincus de pouvoir nous mêler à la lutte pour les premières places, même si la concurrence sera cette année peut-être encore plus forte que sur le Tour de France. Si Contador est autorisé à prendre le départ, il sera assurément le favori numéro 1. Mais il y aura aussi Menchoff, mon ancien équipier Nibali, Rodriguez et Scarponi.
Dans le peloton, les voix de certains coureurs se sont élevées pour critiquer les parcours jugés trop difficiles des grands tours et notamment de celui d'Italie, extrêmement montagneux cette année. Un avis partiellement partagé par Roman Kreuziger, qui estime cependant que la longueur et la difficulté de certaines étapes nuit d'abord à la qualité du spectacle.
Tout le monde dit que le Giro cette année est encore plus dur que celui de l'année dernière. Mais ça dépendra surtout du rythme que les coureurs s'imposeront eux-mêmes. La longueur des étapes n'est sans doute pas idéale. Je pense que pour les spectateurs, les étapes de 200 km maximum sont plus intéressantes. Il vaut mieux que les coureurs abordent la dernière ascension encore relativement frais. Il y a plus de mouvement, la course est plus mouvementée lorsque les coureurs ont encore un col à gravir après avoir déjà parcouru 230 km. Cette année, il y aura sur le Giro 7 étapes longues de plus de 230 km. C'est beaucoup, mais c'est l'affaire des organisateurs. Ce sont eux qui décident quel type de course ils veulent proposer au public. Il faudra évidemment de la résistance, mais ça ne me fait pas peur.
Avant le Tour d'Italie, qui s'élancera le 7 mai, Roman Kreuziger participera également au Tour du Trentin et au Tour de Romandie en avril. En revanche, aucune classique ardennaise ne figure à son programme, or l'Amstel Gold Rails, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège semblent posséder des parcours presque idéaux pour le Tchèque.
À l'avenir, j'entends bien à ce que ces courses deviennent des objectifs, mais il était difficile de les intégrer dans mon programme de préparation en vue du Giro. Il faut être prêt à 100% pour avoir une chance dans les classiques. C'est pourquoi nous avons choisi d'autres courses en avril, plus calmes aussi, mais cela n'enlève rien au fait que je regrette de ne pas participer à ces classiques.
Si le public ne verra donc pas Roman Kreuziger à l'œuvre dans les Ardennes, il ne le verra sans doute pas non plus sur le Tour de France. Après le Giro, le Tchèque devrait en effet être laissé au repos avant d'enchaîner avec les Tours d'Autriche et de Pologne, deux courses d'une semaine en juillet et en août qui devraient lui permettre de peaufiner sa forme en vue du troisième grand tour de la saison, la Vuelta espagnole, fin août, début septembre.
Vendredi soir, l'équipe de République tchèque de football affrontera l'Espagne à Grenade dans le cadre des éliminatoires au championnat d'Europe 2012. Face aux champions du monde et d'Europe en titre, la mission des Tchèques ressemblera fort à une mission impossible. Pour autant, comme l'a confié leur gardien Petr Čech au micro de Guillaume Narguet au début de la campagne de qualification, rencontrer l'Espagne est d'abord un privilège.
Pour moi, c'est magnifique. Parce que je pense que déjà pour les supporters, pour tout le monde, c'est magnifique d'affronter une équipe qui est le dernier champion d'Europe et champion du monde. Et vraiment avec des grands joueurs. Et je pense que c'est aussi pour nous un très bon test pour voir où on est vraiment. Bien sûr, on ne s'attend pas de gagner 6 points contre eux. Mais je pense qu'un bon résultat contre l'Espagne, ça peut vous donner une autre dimension au niveau de la confiance. Que si vous arrivez à faire un truc exceptionnel, ça peut nous servir pour le reste de la qualification. Et, évidemment, on est très clair dans notre tête, on sait que ça va être l'Espagne premier et nous et les autres après. mais on va quand même affronter ces deux matchs avec beaucoup de volonté de gagner quelques points.
La présence de l'Espagne dans le groupe de la République tchèque est également d'abord un bonheur pour le désormais manager de l'équipe nationale, Vladimír Šmicr. L'ancien Lensois et Bordelais, qui n'a lui non plus pas oublié son français, se dit admiratif du jeu pratiqué par les Espagnols.
Je peux dire que moi j'adore regarder l'équipe Espagne parce que vraiment ils jouent foot, que tous les supporters je pense aiment. Et moi je suis super content que l'Espagne ait gagné la Coupe du Monde parce qu'ils montrent comment il faut jouer. Ils montrent que les joueurs qui sont capables de faire tous les tricks, toutes les choses avec les ballons, ça c'est le football. Je suis super content qu'eux ils donnent des préférences pour les autres. Que ça, je suis content. Ça sera très difficile de jouer contre l'Espagne dans notre qualification. Et on ne sait jamais. On verra, on va essayer tout, que ça sera toujours le match difficile quand on va jouer contre l'Espagne. On va faire tout qu'on peut, faire un bon résultat pour contre eux. Mais c'est vrai que c'est un grand, grand favori dans notre groupe. Et plutôt, on regarde plutôt Lituanie et Écosse, ce sont notre adversaire direct à ce moment. Parce que notre niveau n'est pas du tout la même que l'Espagne, ça c'est sûr.
Nous reviendrons bien entendu sur ce match de gala pour les Tchèques contre l'Espagne, champion du monde et d'Europe, dans nos prochaines émissions cette semaine et dans la rubrique sportive lundi prochain. C'est la fin du programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková. Merci de votre attention.